Vous écoutez, on lit pour vous.
En situation de handicap et en manque de transport adapté. Un texte d'Étienne Perrault, paru le 17 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada. Une nouvelle étude réalisée par le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable démontre que les transports sont très peu adaptés pour les personnes en situation de handicap en Gaspésie. Dans la grande majorité des municipalités de la région, les personnes en situation de handicap n'ont par exemple pas accès à un transport adapté en soirée ou pendant les fins de semaine. Le ministère des Transports subventionne au nombre de têtes et non à la grandeur du territoire. Comme bien d'autres, la Gaspésie et les îles sont désavantagées, déplore le directeur général du regroupement des associations des personnes handicapées de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, RAPHGI, RAPJI, Ghislain Gagnon, qui a commandé la réalisation de cette étude. Les chercheurs ont notamment interviewé 13 Gaspésiens vivant avec des situations de handicap afin de mettre en lumière les défis liés au manque de transport adapté. Des impacts importants. L'étude démontre que le manque de mobilité et les enjeux de transport ont plusieurs impacts sur les personnes en situation de handicap. Certains ressentent un plus grand sentiment d'isolement social en raison de leurs difficultés à se déplacer. Citation : La pandémie nous l'a prouvé, l'isolement et la santé mentale, ça ne va pas bien ensemble. Ça amène aussi de plus en plus de gens qui vont se refermer sur eux-mêmes. Fin de citation. Ghislain Gagnon, directeur du RAPJI. L'étude soutient que cet isolement peut également mener à des cas d'abus envers certaines personnes en situation de handicap. Les personnes handicapées doivent se fier à leur entourage pour leur transport et c'est là que les situations d'abus peuvent arriver. On sait qu'une femme avec incapacité a le double de risque de vivre un épisode de violence conjugale ou d'abus de sa vulnérabilité, soutient M. Gagnon. Une plus grande pauvreté. Les experts notent aussi que ce manque de transport adapté peut avoir de fortes conséquences sur la situation financière des personnes en situation de handicap. Si l'accès aux moyens de transport est difficile et que les déplacements doivent être planifiés, organisés et priorisés, les personnes en situation de handicap peuvent être limitées dans leur capacité à occuper un emploi leur permettant une autonomie financière, peut-on lire dans l'étude. Selon Ghislain Gagnon, le manque de financement dans le transport adapté se traduit par une discrimination systémique. Il espère donc que le gouvernement du Québec investira davantage dans ce service. Citation : Je pense que le ministère du Transport a une très mauvaise lecture du terrain présentement. Il ne connaît pas la réalité, la grandeur de notre territoire et ce que ça implique. Il faut un réinvestissement massif dans le transport adapté. Fin de citation, déclare-t-il. C'était « En situation de handicap et en manque de transport adapté », un texte d'Étienne Perrault, paru le 17 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada.
L'immigration, un sujet toujours payant pour Donald Trump, un texte de Fabien Deglise paru le 9 juin 2025 dans Le Devoir. Rétablir la loi et l'ordre n'est pas la seule raison qui pousse Donald Trump à jeter depuis plusieurs jours de l'huile sur le feu, de l'indignation induite à Los Angeles par les arrestations massives d'immigrants effectuées par son gouvernement en dehors des règles élémentaires de l'État de droit. La crise que le gouvernement Trump prétend vouloir résoudre est en fait une crise qu'il est en train de créer lui-même, écrit lundi le chroniqueur politique Philip Bump dans les pages du Washington Post en évoquant la volonté du populiste de raconter une histoire avec son déploiement de la garde nationale sur la côte ouest américaine pour mater des insurgés, selon lui, payés pour manifester, celle de l'homme fort prêt à tout pour mettre à genoux quiconque voudrait se placer en travers de son chemin. Mais il y a plus. Par ses arrestations et par la répression des manifestants qui ont suivi, le président tient aussi dans sa main un récit dont il tire doublement avantage. D'abord en maintenant bien en vie l'idée d'une immigration problématique et incontrôlable qu'il a promis de mettre au pas par ses politiques ultra-conservatrices. Ensuite, en plaçant ses opposants démocrates en porte-à-faux sur le terrain de la diversité sociale et de l'immigration, terrain dont ils sont sortis largement perdants en novembre dernier lors de la présidentielle. Donald Trump a besoin du fantôme de l'immigration qui a largement accompagné son retour à la Maison-Blanche. Mais il se retrouve également confronté à l'ampleur de la désinformation qu'il a nourrie durant sa campagne électorale en parlant d'une invasion massive de son pays par des immigrants criminalisés venus terroriser les Américains et menaçant d'empoisonner le sang de notre nation, comme il l'a affirmé. Or, la chute importante des arrestations d'illégaux à la frontière sud du pays, au plus bas historiquement depuis le retour du républicain au pouvoir, déjoue désormais le concept d'invasion, mentionné pourtant dans pas moins de 12 décrets présidentiels depuis le 20 janvier 2025. Devant le manque d'intérêt politique contenu dans des images exposant surtout depuis des semaines l'ennui des militaires qu'il a massés le long de la frontière avec le Mexique, Donald Trump agite l'épouvantail autrement en lançant les agents fédéraux désormais contre les immigrants illégaux largement intégrés à la société américaine et à son tissu économique. Il serait près d'un million à vivre en Californie. Les frappes ont été effectuées sans ménagement en ciblant des travailleurs sur leur lieu de travail, comme une usine de fabrication textile du quartier de la mode de Los Angeles, un entrepôt de vêtements du sud de la métropole ou un home depot du quartier Westlake. Plus de 100 personnes ont été interpellées dans le cadre d'arrestations réalisées sans mandat à dénoncer l'Union américaine pour les libertés civiles durant la fin de semaine. Le Centre juridique des défenseurs des immigrants de Los Angeles fait état de 200 arrestations et souligne des détentions illégales dans les sous-sols de bâtiments fédéraux où les familles sont séparées et à qui les autorités auraient refusé un accès à un avocat. Cette brutalité fait tache, a rappelé Angelica Salas, directrice générale de l'Association de défense des droits de la personne en immigration, CHIRLA, lors d'une conférence de presse vendredi, en insistant sur le fait que Washington ne cible pas des criminels violents, mais plutôt des travailleurs, des pères et des mères. « Notre communauté est attaquée et terrorisée », a-t-elle ajouté. Paris gagnant. Pour le nouveau régime, ces arrestations en valent le prix, puisqu'elles viennent servir une leçon politique aux démocrates dans les villes sanctuaires de leurs États bleus. La stratégie est même délibérée, a admis le nouveau responsable des frontières à la Maison-Blanche, Tom Homan, qui a parlé sur Fox News d'inonder la zone pour mettre fin à la tolérance de ces villes en ce qui concerne l'immigration illégale et surtout les contraindre à se plier aux politiques de Donald Trump, même si ces politiques ne reposent pas toujours sur la science et sur les faits. Récemment, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a indiqué qu'il allait poursuivre le gouvernement pour le déploiement par le fédéral de la garde nationale sur son territoire sans son consentement. Donald Trump a créé les conditions que vous voyez à la télévision. Il les a exacerbées. Il a craqué l'allumette. Il a jeté de l'huile sur le feu, a-t-il dit la veille sur les ondes de MSNBC, en dénonçant un acte illégal, immoral et inconstitutionnel. Mais il est resté plus circonspect sur ce qui a mis le feu aux poudres, soit les arrestations de travailleurs illégaux dans la grande région de Los Angeles. C'est que la guerre à l'immigration renvoie constamment les démocrates à leur vulnérabilité, car leur approche généralement plus humaine et plus inclusive en la matière est perçue et dépeinte par les républicains comme un appel à l'ouverture des frontières. Et qui dit ouverture dans le monde de Donald Trump dit menace existentielle à laquelle les Américains semblent, malheureusement pour les démocrates, de plus en plus réceptif. La timidité avec laquelle les hauts gradés du parti, à commencer par Gavin Newsom, que l'on dit présidentiable, se sont portés à la défense de Kilmer Abrego Garcia, cet immigré salvadorien expulsé par erreur par le gouvernement Trump dans la foulée de la reprise du pouvoir par les Républicains, a sans doute cristallisé cette fragilité. Et la mathématique du présent vient certainement la conforter. Alors que Donald Trump dit « frapper face à des manifestants qui crachent », c'est ce qu'il a affirmé, 54% sont toujours derrière lui et approuvent son vaste projet de déportation des illégaux, selon un coup de sonde YouGov lancé début juin pour le compte de CBS News. Si le président cherche à imposer ses images, il a déjà gagné la guerre des perceptions. 53% sont persuadés que ce plan de déportation massif priorise surtout l'arrestation de dangereux criminels, même à Los Angeles, mais aussi à Newark, Chicago, Nashville. Ce sont des travailleurs d'usine, des ouvriers de la construction ou de la maintenance, tout comme des représentants syndicaux venus se porter à leur défense, qui ont été principalement arrêtés. C'était « L'immigration, un sujet toujours payant pour Donald Trump », un texte de Fabien Deglise, paru le 9 juin 2025 dans Le Devoir.
Quand la Saint-Jean brûlait, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir. En 1952, pour la Saint-Jean-Baptiste, le maire Camillien Houd trône au milieu de la parade, bien en vue dans sa rutilante décapotable américaine. Le cortège est commandité par diverses entreprises, dont Dupuis Frères, symbole de la petite classe possédante chez les francophones. La nuit précédente, 19 des 22 chars qui devaient composer le défilé ont été détruits par un incendie criminel. Le défilé a lieu malgré tout le lendemain après-midi, avec des chars improvisés. Ces véhicules célèbrent, selon les organisateurs, la survivance culturelle, notre foi, notre histoire, notre folklore, notre drapeau. Un enfant de 7 ans, cheveux blonds et bouclés, personnifie Jean-Baptiste avec son mouton bien soumis. Derrière lui, sur un calicot tendu, on peut lire « Soyons Canadiens avant tout ». Le maire Houd, de son côté, salue tout le monde. Il est heureux d'être révéré, vu, reconnu. Ce serpent de mer aime la grandeur des poses impériales, les grâces empruntées, les gestes en majesté. Lorsqu'il meurt en 1958, ce n'est pas anodin de le voir inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges sous une réplique du tombeau de Napoléon. Rien de moins. Le 24 juin 1952, Camillien Houd promène sa vanité coiffée d'un chapeau haut de forme au milieu du défilé, planté dans sa limousine. Soudain, il reçoit une volée d'œufs pourris. Le visage du maire se décompose. Comment ose-t-on l'humilier, l'offenser? La belle illusion d'unité qui préside à pareil défilé patriotique se trouve fissurée. La police arrête un individu de 29 ans. On le conduit, manu militari, au poste de police. Les employés en grève de la maison Dupuis Frères sont pleinement responsables de l'incident, déclare la police. Encore couvert d'œufs, le maire ne fait ni une ni deux et débarque au poste de police. Ce personnage ventripotent apparaît très peu accommodant. Il éructe, il exige qu'on lui amène son prisonnier. « Où est-il, mon prisonnier? Qu'on me l'amène! » Le maire Houd réclame que justice lui soit rendue sur le champ, tout en se proclamant en quelque sorte juge de la situation devant des policiers municipaux bouche bée parce que placé sous son autorité. La séparation des pouvoirs, l'autonomie du judiciaire, le maire ne s'en soucie guère. C'est un problème, chacun le sait, qui menace les sociétés chaque fois qu'elles s'abandonnent aux mains de petits potentats. Pourquoi lui a-t-on lancé des œufs au maire Hood? Depuis le mois de mai, les employés du magasin à rayon Dupuis Frères sont en grève. Or, le maire ne les soutient pas. Bien au contraire. Sous ses dehors débonnaires, le maire est un allié de l'ordre établi et de ses hiérarchies. Ancien chef du Parti conservateur, écarté de la scène provinciale par le rusé Maurice Duplessis, Hood partage néanmoins, avec le premier ministre, son amour du patronat et sa haine des syndicats. Camillien Hood, comme la classe dominante, fractionne les effets d'une grève pour n'en retenir que les éléments qui l'indisposent, de façon à pouvoir ensuite détourner le regard des causes profondes et de n'en présenter que les symptômes isolés. Ce procédé permet d'éviter de penser les fondements des conflits sociaux en concentrant l'attention sur le scandale de leur expression. La grève, Hood l'envisage de la sorte comme un phénomène détestable en soi, coupé de toute causalité. On ne se trouve pas très loin de cette conception avec le gouvernement Legault quand il exprime sa volonté, avec sa loi 89, de limiter les grèves, comme si, en les présentant comme des facteurs à isoler, on pouvait justifier par là l'effondrement des services publics sans jamais s'interroger sur les choix politiques qui les ont provoqués. Au poste de police, en ce mardi 24 juin 1952, le maire Hood trouve sur son chemin Pierre Vadeboncœur, l'avocat des grévistes. Vadeboncœur est accompagné de son ami, le syndicaliste Michel Chartrand. Les chances que le maire laisse se décanter la situation leur apparaissait mince. Mais rien ne fait peur à Chartrand, qui apostrophe le maire, un homme qu'il connaît de longue date. « Camillien, voyons, voyons donc, Camillien. Laisse-le donc aller, ce gars-là. » C'est ainsi que Pierre Vadeboncœur, amusé, me racontait la scène. Le 1er mai 1952, chez Dupuis Frères, les employés ont décidé à majorité, de déclencher une grève. Ils espèrent reconstruire un nouvel équilibre à la faveur d'une révision de leur salaire, histoire de pouvoir faire face à la valse de l'augmentation du coût de la vie. Des lignes de piquetage sont formées devant le grand magasin. La compagnie engage des briseurs de grève. Les autorités laissent s'envenimer le conflit. Lorsque le nom de Hood est prononcé, il est copieusement hué par les syndiqués. Les propriétaires de Dupuis Frères multiplient les incitatifs pour attirer le public tout en faisant fi de leurs employés. Le grand boxeur américain Joe Louis, immensément populaire, est invité à venir rencontrer les clients. Seulement voilà, Joe Louis refuse de traverser les lignes de piquetage. Il sait ce que la société doit aux travailleurs. Il reconnaît leur droit d'être bien traités. Être un boxeur à la manière de Joe Louis, comme le sera après lui Mohamed Ali, c'est défier l'ordre établi en ne comptant que sur ses poings pour se tailler sa place. C'est un pari risqué, volontiers récupéré par tous ceux-là qui annoncent que « si tu veux, tu peux ». Prétendre que chacun est libre de choisir sa destinée, pour peu qu'il en ait le courage et la volonté, est un leurre qui permet de justifier que rien ne bouge. Tout le monde ne peut pas être un Joe Louis ou un Mohamed Ali. Ces figures d'exception, héroïsées et mythifiées, servent, malgré elles, à entretenir l'illusion qu'il suffit d'efforts et de volonté pour être capable de se frayer un chemin en société. Ce n'est pourtant pas le courage des uns et des autres qui fait défaut, mais l'égalité de leurs conditions d'entrée dans l'arène sociale. C'est justement une situation que devrait permettre de combattre l'éducation, en élargissant le champ des possibles de chacun, en offrant d'autres moyens que les seuls points. Quand on coupe dans le financement de l'éducation, ce sont des avenirs qu'on met KO. Et c'est exactement ce que s'emploie à faire le gouvernement Legault, tout en continuant de baratiner, de dépenser de façon éhontée autour du troisième lien et autres projets pharaoniques, tous aussi mal ficelés. Ce ne sont pas les grévistes qui mettent en danger la cohésion sociale, mais ceux qui, tout en brandissant les symboles de la nation, veulent faire croire qu'on peut s'en sortir seul, à la petite semaine, à la seule force du poignet, tandis qu'eux démantèlent à tour de bras tout ce qui permet encore de faire société. C'était « Quand la Saint-Jean brûlait », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir.
Le retour en force d'Eugénie Lépine-Blondeau. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue. Une émission anniversaire sur Ici Première, une chronique à sucré-salé et une activité spéciale durant Fierté. Eugénie Lépine-Blondeau n'aura pas de quoi chômer cet été. Quel est le concept de l'émission Bon anniversaire qui sera diffusée sur Ici Première? Puisqu'on est en 2025, le potentiel de célébrer des événements avec un anniversaire rond est quintuplé. Avec mon équipe, on a voulu souligner des moments socioculturels marquants en ratissant assez large. On a choisi 8 thèmes, comme les 30 ans de RDI, les 20 ans du cœur à ses raisons, les 35 ans de l'album Unison de Céline, les 25 ans des Sims, etc. On touche aux grandes institutions canadiennes et à des trucs plus nichés de la culture populaire. Seras-tu entouré de plusieurs collègues? J'anime en solo, mais c'est une grande tablée d'une heure avec 3 segments. Dans le premier, on retourne à la genèse. Pour l'album de Céline, on a un des producteurs de l'album et Sonia Benezra qui animait l'émission spéciale à sa sortie. Pour Le cœur à ses raisons, on a Marc Brunet et les comédiens. Pour RDI, on a les gens qui ont créé les premiers reportages. Dans la deuxième portion, on se concentre sur l'évolution de l'événement. Et dans la dernière, on invite des personnes à réfléchir sur une question en lien avec cet événement. Par exemple, à propos de RDI, on se demande si on a encore besoin des médias d'information en continu. Qu'est-ce que ça t'a fait de revenir à l'animation de ta propre émission? J'étais vraiment fébrile, mais je n'avais pas mesuré l'ampleur d'animer une émission d'une heure. Autant j'étais stimulé dès le premier jour. Autant, en animant la première, j'ai compris que c'était du stock. J'avais perdu certains réflexes. Ce métier-là doit être pratiqué, mais c'est comme la bicyclette. On n'oublie pas comment faire. C'était surtout galvanisant pour moi. Tu es aussi chroniqueuse culturelle à sucré-salé durant l'été. Pourtant, tu me sembles très radio-canadienne. Comprends-tu pourquoi on peut être surpris? Oui, tu n'es pas le seul à être surpris. Mais faire de la chronique dans un contexte estival et ludique, sans le dire de manière péjorative, ça me parle. Je vais rester dans le giron culturel. Je veux me concentrer sur la passation. Les artistes ont chaque fois des produits dérivés ou des billets de spectacle à distribuer aux gens. Il y a une portion entrevue sur un tandem et on encourage ensemble le public à consommer de la culture québécoise. C'est raccord avec ce que je fais depuis mes débuts. D'ailleurs, j'ai produit mon premier topo à Radio-Canada il y a 10 ans cet été. Bref, je m'amuse beaucoup. Et je suis contente de découvrir le monde de la télé. C'est une nouvelle corde à mon arc. Reprendras-tu la chronique culturelle à tout un matin au mois d'août? Non, je ne reviendrai pas. C'est une décision qui n'a pas été prise à la légère. Toute ma vie, je vais rechercher ce genre d'adrénaline et cette très grande connaissance du monde de la culture, car tu baignes tellement dedans. Tu lis tous les journaux le matin et tous les communiqués de presse. Ta journée est consacrée à rester au courant des moindres changements en culture. La gang me manque énormément, mais je ne voyais pas comment exercer mon métier comme j'aime l'exercer en ayant un jeune enfant à la maison. J'avais besoin de pouvoir décider la journée même d'assister à un show. Je travaillais 16 heures par jour, et j'aimais ça. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Avoir un enfant, ça prend du temps. Cela dit, j'ai un grand projet pour l'année à venir, qui sera bientôt annoncé. Durant Fierté Montréal, en août prochain, tu reviens au combat des tubes, cette fois avec Vanessa Destiné. À quoi doit-on s'attendre? L'an dernier, avec Claudie Prévost et Catherine Pogonat, c'était tellement le fun. C'était la convergence de plusieurs de mes intérêts. Être sur scène, mettre de la musique dans un environnement queer et avoir du plaisir. Je m'étais super bien entendu avec les filles. C'était moins un battle, cela dit, même si on avait une attitude de compétition. Cette année, on va être deux au lieu de trois. Alors je vais devoir chercher encore plus de tounes. En tant que fière représentante lesbienne, je vais vouloir pousser ma communauté. Depuis 2 ou 3 ans, je trouve ça réjouissant de découvrir la musique créée par nos communautés, en particulier par les femmes lesbiennes, bisexuelles ou pansexuelles. L'automne dernier, tu as gagné avec ton amoureuse Judith le prix Coup de cœur de la Fondation Émergence pour votre prise de position à la naissance de votre enfant. Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Ça nous a pris du temps avant de l'accepter. On a juste fait un post Instagram. Mais on a reçu beaucoup de rétroactions des gens de la communauté, dont des amis qui ont accouché au CHUM et qui nous ont envoyé les nouvelles cartes de naissance qui ont été créées. C'est extrêmement touchant. On est fiers. Mais ça permet aussi de prendre la mesure du travail qui reste à accomplir. Les carnets de vaccination évoquent encore le père et la mère. Plusieurs hôpitaux ont encore « père et mère » seulement sur leur formulaire. Ça démontre aussi que c'est en se parlant qu'on se comprend. C'était « Le retour en force d'Eugénie Lépine-Blondeau », une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue.